la Triennale Banlieue fait un retour en force avec une troisième édition qui propose une thématique d'actualité. La présence de la nature en banlieue et toute sa relation avec l'habitat humain. Alors, une troisième édition titrée Interrègne, réunissant 19 artistes en provenance de France, du Canada, du Québec, bien sûr. Et pour en savoir davantage, bien, j'ai le plaisir de m'entretenir avec la co-commissaire de cet événement spécial, Marie Perrault. Je suis tellement ravie de vous retrouver. Bienvenue.
Bien, merci beaucoup, ça me fait plaisir.
Vous avez abordé en visite de presse aujourd'hui, en début de visite de presse, les quatre axes que vous explorez et qui sont représentés dans l'exposition. Si vous parliez de ces axes-là.
Oui. OK. Bien, d'une part, la thématique générale, c'est comme vous l'avez souligné, nature et banlieue. Puis l'important pour moi, c'est de regarder comme objet le rapport que l'humain a à la nature et comment il... Quel impact ça a sur la nature, puis comment la nature agit dans cette relation-là. Alors, plutôt que de regarder un phénomène extérieur, c'est vraiment retourner le regard sur soi. Et puis, ça a été déployé autour de quatre axes qui traitent de cette relation-là. Alors, d'une part, il y a tout l'imaginaire qu'on a de la nature en banlieue. La nature est promue comme ça, en comme moussant des rêves, si je peux m'exprimer. Puis la réalité du rapport nature et humain en banlieue. Il y a un deuxième axe qui est la nature humanisée, qui va de l'agriculture. La plupart des banlieues voisinent des territoires agricoles. À Laval, 30 % du territoire est encore agricole.
Et c'est d'importance.
Oui, c'est d'importance quand même. Ça correspond au pourcentage de terres consacrées à l'agriculture sur Terre aussi. Alors, il y a la nature comme les jardins, ce qu'on entretient, les jardins privés, les jardins institutionnels. Puis, il y a la nature complètement artificielle qu'on côtoie, par exemple...
Dans les centres d'achat, peut-être?
Oui, dans les centres d'achat. La banlieue est quand même reconnue pour offrir plusieurs centres d'achat. Alors, on aborde aussi cette situation-là. Il y a aussi la nature... sauvage. Ce qui reste de nature qui est la plus sauvage ou ensauvagée ou qui
Il y a encore quelques îlots,
Il y a encore quelques îlots qui sont déterminants pour reconstruire une espèce de continuité entre différents îlots naturels.
Et si ce n'est que des étangs aussi.
Oui, c'est ça. Alors, il y a des artistes qui explorent ces lieux-là. Et puis, qui explore ces lieux-là dans le rapport que les humains ont à ces lieux-là. Alors, la présence humaine est aussi soulignée comme étant importante dans ces lieux-là. Et puis, il y a des artistes qui explorent aussi les friches, qui sont des milieux complètement oubliés, où la nature reprend le dessus. Et puis, qui finissent par être importants dans la diversité des milieux. Il y a un quatrième axe qui explore la cohabitation. La cohabitation est une échelle micro, que j'appellerais, qui est, ici, c'est montré avec deux projets qui explorent les oiseaux et les échanges que les oiseaux ont avec l'humain, puis comment les bâtis peuvent être un obstacle ou létal pour les oiseaux. Puis aussi, la gestion des très grands cycles naturels, dans lesquels les banlieues s'inscrivent ou le construit s'inscrit avec le travail d'Andreas Rukowska puis la gestion des feux de forêt qui peut servir d'exemple pour les inondations dans l'Est du Canada, de modèle pour repenser notre rapport à ces...
Inondations qui ont eu lieu non loin de Laval. Hein?
Non loin de Laval,
c'est ça. Au cas, par exemple.
Oui, puis qui sont dus pour se répéter aussi, là, on le voit bien maintenant, là.
La nature a décidé de reprendre sa place dans un passé récent. Alors, écoutez, c'est fort intéressant. Qu'est-ce qui vous a amené à vouloir jeter un regard scientifique, introduire un regard scientifique dans cette exposition? Un petit peu, quel a été le processus de collaboration de plus?
OK. Alors, d'une part, moi, j'avais l'idée de faire un lien avec la science dès le départ. Actuellement...
Il faut mentionner qu'il y a 4 scientifiques impliqués dans cet événement spécial.
Oui, c'est ça, j'y viens. Alors, j'avais dès le départ l'idée de faire un regard avec la science. D'une part, ce n'est pas la seule exposition sur la nature qui a lieu. Puis,
c'est d'actualité.
C'est d'actualité. Puis, c'était une façon de la distinguer des autres événements. Mm-hmm. C'est quelque chose qui ne m'apparaissait pas touché. Alors, une fois que la sélection a été faite, il y a 4 scientifiques qui ont été invités à commenter le travail puis à nous alimenter sur des éléments qu'eux autres voyaient dans leur perspective scientifique qui étaient mis de l'avant dans les œuvres. Alors, toute l'interprétation des œuvres a été influencée beaucoup par les commentaires des scientifiques. Des scientifiques contribuent à la publication par des textes de vulgarisation.
Oui, il y a une publication importante.
Oui, qui va venir. Oui. Et puis, dans l'exposition, il y a des vidéos qui ont été des entrevues avec les scientifiques où les scientifiques expliquent leur perception de phénomènes naturels dans le contexte de banlieue. Puis, ça m'apparaissait aussi important parce que, d'après moi, le défi à l'époque actuelle, ça va être de créer de notre rapport à la nature un enjeu commun. Et puis, de faire un lien entre le milieu des arts visuels et le milieu scientifique, où chacun le prend à partir de son point de vue, permet de créer les bases d'une première communauté autour de cet objet-là. Puis, c'est
Alors, vous êtes une commissaire visionnaire, Marie Perrault.
Ah, ça sera à vous d'en déterminer, mais c'était vraiment, c'était vraiment, dans la discussion, un élément qui me semblait avoir pas la présence que moi, je voulais qu'il ait. Alors, j'ai pas fait ma contribution pour lui donner une place que je pense qui est importante. Je
crois créer un pont entre le milieu scientifique et le milieu artistique, ça vous démarque, effectivement.
Là. Oui, bien, en tout cas, dans cette exposition-là, oui.
Si à ce point, parce que comment a été parce que vous avez eu tout un processus de collaboration, comment ça s'est déroulé?
Bien, la sélection a été... On a fait d'abord la sélection. Yann Romaneski, qui est géographe,
co-commissaire aussi, pour le mentionner.
Oui, co-commissaire de l'exposition. Oui. Yann Romaneski était de la sélection. Il y a comme contribué à la sélection puis aux échanges qu'on a faits en comité.
Et il y a des études en géographie.
Oui, lui, il y a des études en géographie. Et puis après ça, on avait comme fait une sélection artistique. Moi, je me suis rendu compte que, hop, si Yann était le seul à tenir le volet scientifique, ben c'est pas une question de compétence, mais une question de créer une communauté. Ce serait peut-être intéressant qu'on crée un comité scientifique pour élargir notre bassin, parce qu'on venait, la plupart, on était issus, sauf Yann, du milieu des arts. Yann, lui, il a pas une double formation. Il est formé comme un géographe, mais il a été actif aussi dans le milieu des arts visuels.
Alors, l'important... Mais je pense qu'il était actuellement à la direction même d'une revue en arts visuels HB.
Oui, c'est ça. Il est à la direction de HB. Alors, je voulais comme appuyer un peu la présence des scientifiques. Puis, j'ai dit, on devrait faire un comité scientifique qui va réagir à la sélection. Puis ça, c'est vraiment un projet que Yann a mené de main de maître. Le comité scientifique, c'est beaucoup Yann qui l'a formé. Puis là, qui les a sollicités, puis tout ça. Puis c'est lui qui a développé les contenus qu'on voit dans l'exposition puis qu'on trouve dans le catalogue, aussi avec les scientifiques.
Et je pense que les scientifiques vont être très impliqués dans la programmation, une programmation très intense qui s'en vient jusqu'au 30 octobre.
Oui, puis les scientifiques...
Les tables rondes, etc.
Oui, puis c'est tout le temps des activités, en général, multidisciplinaires, où les scientifiques sont appelés à être actifs.
Et puis... Bonne idée!
Ils ont été très contents de cette collaboration-là. Ils ont été très excités. Les œuvres qu'ils aiment, puis tout ça, en tout cas, moi, je suis contente qu'on ait fait ce pont-là. Puis eux, ils ont été très contents de ce pont-là aussi.
Écoutez, ça nous amène maintenant à parler... Oui, on vient de parler des scientifiques, mais il y a les artistes. Alors, comment les artistes ont vécu cette collaboration avec les scientifiques? J'aurai une autre question par la suite.
Bien, les artistes... Les artistes, la collaboration scientifique s'est beaucoup faite dans la muséologie. Oui. Alors, les artistes ont été confrontés au contenu scientifique dans l'interprétation qui a été faite de leur œuvre, qui leur a été montrée au fur et à mesure qu'on développait le propos muséologique. Et puis, il y a aussi des scientifiques, comme il y a des artistes qui ont été en lien avec certains scientifiques pour développer leur propre projet.
Ça, c'est intéressant, oui.
Mais ça, c'est quand même une petite partie. Puis, ils vont être en discussion avec les scientifiques en échange dans les activités qu'on va mener par après.
Donc, toute une expérience à vivre les artistes visuels réunis. Si on parlait maintenant un peu des artistes de leurs œuvres, écoutez... Il y a vraiment des œuvres qui nous connectent immédiatement aux îlots de nature en banlieue. Je vous félicite. Si on parlait d'une œuvre que je trouve très poétique, celle de Louise Noguchi.
OK, l'œuvre de Louise Noguchi.
Très poétique.
Oui, ça, c'est une œuvre qui nous
avait... Elle a vécu en banlieue, là. Écoutez, je me suis retrouvée.
Alors, l'œuvre de Louise Noguchi s'inspire des virevoltants. Qui sont un motif récurrent dans les films western. Puis tout son film est monté comme un film western avec un balayage, comme quand il y a des affrontements, puis tout ça. Puis la caméra fait le tour de différents quartiers de banlieue. Alors on voit la vie quotidienne en banlieue, on voit les gens qui y habitent, on voit les...
Les autoroutes, hein?
Les autoroutes.
Qui bordent les champs, là.
Oui, les voies de circulation, les voies ferrées, on voit les enfants qui jouent dans des lieux de loisirs, on voit des enfants qui jouent dans la rue. Alors ça parcourt vraiment tous les différents milieux de banlieue. Puis ça donne d'une façon un petit peu humoristique, là, ça dégage un peu la mythologie qui est en arrière, qu'on peut conquérir le territoire. Puis le tumbleweed, c'est le virevoltant, c'est aussi une herbe comme invasive. Alors, ça aussi...
Tout est pensé.
Oui, mais je pense que Louise Noguchi, elle vit elle-même en banlieue, puis je pense qu'on sent vraiment dans son vidéo qu'il y a une expérience comme... quotidienne là, de la banlieue puis de ce milieu-là.
En tout cas, j'ai beaucoup apprécié. J'invite le public à voir l'œuvre au complet. C'est extraordinaire. Vous avez aussi vraiment Ariane Plante, qui est le clou de l'exposition, je vous dirais. C'est quelque chose. Un herbier sonore, hein?
Oui, qui s'appelle...
C'est tout un investissement dans cette œuvre-là.
Oui, c'est une œuvre qui a été très longue à développer. C'est une œuvre qui a été... Elle travaillait déjà sur un projet comme ça. Elle l'a fait autour de l'île d'Orléans. Puis là, elle avait soumis une proposition pour le faire dans un milieu humide de Laval. Alors, sur 3 saisons, elle a collectionné des sons et des images réalisées par cyanotype de plantes d'un milieu humide. Et puis, ce qui est important de dire aussi, c'est que ce n'est pas une collection juste de plantes et de sons naturels. Il y a une part importante de sons et naturels, mais il y a aussi, ici et là, des sons d'interaction humaine avec la nature. Et puis, comme j'ai souligné...
Et de belles images.
Oui, c'est ça, c'est de belles images. Le cyanotype, c'est un principe où on met une solution sur un papier coton, et puis la solution réagit à l'exposition à la lumière. La partie où le spécimen...
C'est une œuvre très immersive.
Oui, où le spécimen végétal va créer une ombre blanche, puis où la partie brûlée par le soleil va devenir un beau bleu indigo. Bleu, c'est comme la couleur favorite la plupart du temps des gens, la plus populaire. Et puis, la bande sonore dans la salle d'exposition, c'est la bande sonore qui donne une teinte ou qui donne le contexte sonore à toute l'exposition, en quelque part, aussi.
C'est un magnifique coin de l'exposition. Alors, on pourrait y rester longuement. Je vous félicite. On va peut-être... c'est sûr qu'on ne pourra pas parler des 13 artistes, mais on va parler peut-être de Camille Lescargot, qui m'a fait bien rire. Écoutez, là, je suis ravie de la retrouver.
OK. Camille Lescargot, elle a juste déplacé un module de plante qui est utilisé comme une partition architecturale au Centre Laval. Et puis, elle l'a installé dans la salle d'exposition. Elle a travaillé avec un botaniste qui est celui avec lequel elle travaille depuis longtemps, son projet plus large qui est le département des plantes. Puis, ils ont tous identifié les plantes. C'est des plantes de plastique qui ont été nettoyées pour les fins d'exposition ici, puis qui ont été identifiées avec un petit peu... C'est des plantes de plastique un petit peu complètement fictives, mais inspirées de plantes qui existent. Alors, elles ont un nom scientifique un petit peu fantaisiste pour souligner un peu leur nature complètement artificielle. Et puis, ben, c'est quand même, presque tous les centres d'achat en ont des plantes. Et puis, dans, on se rend compte...
Et là, ce mobilier n'est plus au centre d'achat?
Non, il a été retiré du centre d'achat. Puis dans le centre d'achat, il y a la photo de l'absence du mobilier.
C'est trop comique.
Il y a la photo de l'absence.
Beaucoup d'humour dans la démarche de Camille Escarbot.
Oui, mais en même temps, c'est un humour qui parle à un deuxième niveau. Critique. Oui. Qui parle à un deuxième niveau. Ça nous renvoie le fait que, bien, des fois, il y a des gens que c'est leur contact avec la nature.
Oui, c'est tout le rapport nature-culture, à son maximum.
Oui, tu sais. Et puis, ça souligne le mode de vie parfois très réduit à l'intérieur qu'on a. Et puis, ça...
Et la place centrale du centre d'achat qui ne cohabite pas toujours heureusement avec la nature. Madame Marie Perrault, je sais qu'il y a bien des gens qui veulent vous rencontrer. Alors, ce ne sont que trois. On va devoir s'arrêter là, mais ce ne sont que trois des 13 artistes à voir. J'avais bien d'autres artistes intéressants, si ce n'est que Sophie Aubry, Ludovic Bonnet, qu'on avait vue à Oboro, que l'on retrouve ici avec plaisir. Bien d'autres artistes, Boris Pentado, très original. Merci, mais félicitations pour votre commissariat et votre co-commissariat avec Yann Romaneski. Mm-hmm. Merci. Bonne triennale qui sera intense jusqu'au 30 octobre. Vous allez sûrement participer à bien des événements. Hein?
Oui, je vais prendre un petit peu de vacances, puis après ça, je vais revenir pour participer à d'autres événements. Oui, effectivement.
Oui, mais vous avez pendant la triennale, il y aura peut-être des activités à laquelle vous allez devoir participer.
Oui. Moi, j'ai une activité à la fin août, j'ai une activité en septembre. Il va y avoir un lancement de publication, il va y avoir une visite guidée.
Les gens qui voudraient vous poser d'autres questions, vous serez là pour répondre à leurs questions.
La visite guidée est à peu près le 18 septembre.
Encore merci, Marie Perrault. Merci de cet agréable entretien à la Maison des Arts de Laval. Bonne triennale.
Bien, merci beaucoup.
Oui, et une triennale qui s'intitule?
Interreng, cohabiter le territoire.
Il y aura beaucoup à dire sur le titre, mais ça sera pour une autre fois. Merci.
Bien, merci à vous.